Immédiate et directe. Qu'est-ce que je connais comme immédiate et directe? C'est intéressant de se poser la question. On voit du connaissance intellectuelle. Parce que vous comprenez bien, connaissance immédiate et directe, c'est d'ordre psychologique. On oppose intuition à déduction, à connaissance réflexive, à connaissance abstraite, surtout depuis Bergson. Parce que le langage de l'intuition a été très marqué par Bergson. Ça, très fort. Bergson veut baser toute sa philosophie sur l'intuition. L'intuition de la durée vitale. Et il oppose intuition à connaissance abstraite. La connaissance abstraite étant une connaissance seconde, une connaissance qui implique un certain éloignement par rapport à ce qui est immédiat. Et l'intuition, c'est donc la connaissance immédiate. Donc, connaissance immédiate et directe, c'est au fond la définition qu'on regarderait dans Bergson. Connaissance immédiate. Alors, au plan d'une philosophie réaliste dans laquelle nous nous plaçons, nous essayons de comprendre ce que représente le contenu d'une intuition. C'est ça qui m'intéresse. Toute intuition implique un jugement. Ce n'est pas l'appréhension, c'est un jugement. J'ai des jugements intuitifs, que je dis intuitifs, et j'ai des jugements abstraits. Le jugement abstrait, c'est facile à comprendre, c'est parce que lorsque je saisis quelque chose qui n'est pas immédiatement donné dans le sensible. Le chat est un animal. C'est un jugement abstrait. L'homme est un animal. C'est un jugement abstrait. Quand vous dites ce mur est blanc ou ocre, quand vous dites cela, c'est un jugement concret. Pas abstrait, je peux l'indiquer du doigt. Voici l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste l'indique du doigt. Ce n'est pas celui qui doit venir. Lointain, on l'indique. Est-ce qu'un jugement concret est-il intuitif? Quand je dis ce mur est blanc, je le connais directement, je regarde ce mur. Hein. Je dis il est blanc, est-ce que c'est une intuition? Vous ne savez pas trop quoi répondre. Hein. C'est dire, non, c'est pas une intuition comme voir le mur blanc, tout le monde le voit. Intuition, c'est un peu plus riche que ça. C'est quelque chose qui va un peu plus loin. Toute expérience, c'est pas une intuition. Je touche cette table. C'est assez froid. C'est bien épousseté, merveilleusement épousseté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pas une poussière. C'est parfait, ça. C'est bien. C'est donc. Est-ce que c'est une intuition? Non, c'est pas une intuition. Pierre est absent du café, comme dit Sartre. Et quand je dis, il n'y a pas de poussière, c'est la même chose, vous voyez? Parce que ça prouve que c'est en référence avec une table où il y a des poussières. Il dit, il n'y a pas de poussière, c'est en référence avec ça. Donc il y a un fond sonore. Là, je dis, il n'y a pas de poussière. Pierre est absent du café. Il y a une absence. Je croyais trouver Pierre, je dis, Pierre est absent du café. N'y a pas d'intuition du négatif. Pierre est absent du café. Enfin, un raisonnement, c'est un jugement abstrait, ça. Il n'y a pas de poussière sur cette table, c'est un jugement abstrait. C'est négatif. Hein? Ça présuppose un autre et ça présuppose un raisonnement par rapport à ça. Et quand je dis le mur est blanc, est-ce que c'est intuitif? Non, ce n'est pas intuitif. C'est tout simplement un raisonnement, un jugement concret, direct, sur ce qui existe. Je crois qu'on doit distinguer le jugement d'existence. L'expérience immédiate et l'intuition. Je crois qu'on doit distinguer les deux. Tout jugement qui m'est donné immédiatement n'est pas une intuition, n'est pas un jugement intuitif. C'est autre chose. Ça porte sur le fait qui existe, que tout le monde peut constater. Tous ceux qui sont ici et qui regardent le mur peuvent dire ce mur est blanc, sauf s'ils sont aveugles. Dire, je ne vois rien. Très bien, vous ne voyez rien. Mais ceux qui voient disent cela. Quand vous voyez un signal, le bleu ou le vert, vous dites, ah, c'est vert. C'est intuition? Ben non, c'est pas intuitif. Ah, oh, comme tu es intuitif, tu vois le vert. C'est extraordinaire comme tu es intuitif. Je croyais voir le rouge. Non, tu ne dis pas, on ne dit pas ça du tout. On dit, mais c'est vert. Constatation, un fait. La constatation d'un fait existant n'est pas intuitif, n'est pas la révélation d'une intuition. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit aborder l'intuition. C'est en voyant que l'intuition n'est pas le jugement d'existence. Le jugement d'existence est autre chose que l'intuition. Alors, quand y a-t-il intuition dans un jugement? Quand y a-t-il intuition dans un jugement? Je vous ai dit l'exemple que donnait Poincaré. Poincaré donne une intuition mathématique admirable. Il montre que tout d'un coup, c'est tombé dessus un nouveau rapport qu'il a saisi. Alors, il le décrit admirablement. Je crois que c'est dans méthode et science. Et c'est beau de voir ça. Un mathématicien, il a des intuitions. Un jeune mathématicien, parce que dès qu'il dépasse le cap de 40 ans, il n'est plus un mathématicien capable d'intuition. N'est-ce pas, vous le savez bien. Donc, jusque 40 ans, il peut avoir des intuitions. Et donc, il peut renouveler. Et on considère que l'intuition, c'est un renouvellement. On renouvelle. Le jugement d'existence, ça ne renouvelle rien du tout. Ce mur est blanc. Je renouvelle toute la philosophie en disant le mur est blanc. Pas du tout. Je constate une donnée. L'intuition, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît de nouveau, qui m'est donné. J'ai des intuitions mathématiques, j'ai des intuitions esthétiques. Ah oui, oui. J'ai des intuitions esthétiques. Ah tiens, j'avais pas vu ça, comme c'est bon. Il y a un peu de givre, vous savez, alors la lumière sur le givre fait quelque chose d'assez admirable. Tout de suite, le paysage est différent, c'est plus le même du tout. Et si c'est pas seulement du givre, si c'est un peu de neige et un rayon de soleil là-dessus, c'est extraordinaire. C'est la gloire sur la terre. Il y a quelque chose qui apparaît. Les paysages les plus bêtes, dès qu'il y a un peu. Ah, c'est extraordinaire, il y a quelque chose de nouveau. La lumière là-dessus, la lumière change tout. Curieux, vous voyez l'intuition, la lumière change tout. Je crois que toute intuition, si vous l'analysez, saisit un nouveau rapport. C'est pas le donné. Le donné est toujours le même. Mais il y a la lumière qui change le rapport. Ténèbres et lumière. Le tragique. Je le saisis par une intuition. C'est un rapport. Lumière et ténèbres. Et c'est ça l'intuition. C'est toujours saisir un rapport. Il n'y a pas d'intuition dans une donnée. Non. L'expérience. Tandis que l'intuition saisit quelque chose de nouveau dans un rapport inédit. Ce n'est pas encore. Ah, je n'avais pas vu ça. Et intellectuellement, vous saisissez. Intellectuellement, vous saisissez une intuition dans une attitude réflexive critique. Vous regardez les transcendentaux, puisque. De regarder les transcendentaux, vous regardez les transcendentaux et vous vous demandez si les transcendentaux ce sont des rationes ou des principes. Et là, vous pouvez avoir là une intuition fulgurante. Vous pouvez avoir une intuition fulgurante. On peut avoir des intuitions par les transcendentaux. C'est voir les rapports entre les rationes. On saisit donc au niveau critique, au niveau réflexion critique, je peux avoir des intuitions. Au point de vue métaphysique, je n'ai pas d'intuition. Je n'ai pas l'intuition de l'être. Mais j'ai l'intuition des rapports de l'exister à l'égard du chat et de Raïssa. Et je saisis là quelque chose d'extraordinaire. Il y a une intuition qui se manifeste à ce moment-là, étonnant. Je n'avais jamais pensé à ça. Comparer Raïssa qui existe et le chat qui existe. Je n'avais pas pensé à ça. Subitement, tiens, ça me fait découvrir quelque chose de nouveau. Oui, le quelque chose de nouveau est essentiel à l'intuition. Le quelque chose de nouveau est essentiel. Il n'y a pas d'intuition recuite. Le repas, ce n'est pas une intuition. Non, non. Tandis que l'intuition, c'est un jet de lumière subitement sur quelque chose qui m'était donné et que je n'avais pas vu. C'est très curieux, ça. L'intuition porte toujours sur une forme, sur un rapport, sur un contrat, quelque chose d'inédit qui apparaît. Et c'est pour ça que l'intuition ne porte pas sur l'existé. L'existé, c'est le fait, c'est le donné. L'intuition porte... Au fond, il n'y a rien que Dieu qui pourrait avoir une intuition sur l'être. Parce que l'être apparaît de nouveau dans l'être créé. Ce n'est pas une intuition, c'est un jugement de sagesse. Et le jugement de sagesse n'est pas une intuition. C'est constater qu'une réalité existe. Vous voyez, c'est en ce sens-là. Alors, je vous poussais. Hein. Je l'ai dit, j'avais fait à Fribourg une fois, toute une année, sur expérience et intuition. Parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il faut se faire un petit travail extrêmement intéressant au point de vue philosophique là-dessus. Et faire même un gros travail. Intuition et expérience. Jugement d'existence dans l'expérience. Jugement intuitif sur un rapport, quelque chose d'inédit, quelque chose que je n'avais pas saisi avant. Et alors, je vois à ce moment-là que l'intuition est toujours quelque chose de second. Ça présuppose un jugement d'existence, mais ce n'est pas le jugement d'existence. Ça présuppose une quantité de jugement d'existence. Mais ce n'est pas le jugement d'existence. C'est à l'intérieur de ces jugements d'existence, subitement, il y a quelque chose qui est mis en valeur. Une relation, un rapport, que je n'avais pas vu. Sur ce fond de la grisaille existentielle, apparaît subitement la lumière. Et alors cette lumière, je la saisis. C'est pour ça que les artistes et les peintres ont des intuitions par le point de vue de la lumière. Et c'est très net, c'est ça qui les aide à saisir et à être au-delà de l'existence banale. Donc l'intuition ne peut pas être le point de départ de la philosophie parce que c'est toujours quelque chose qui présuppose quelque chose de plus fondamental. L'intuition n'est pas première. Vous commencez à avoir des intuitions dans un domaine où vous commencez à être à l'aise. Ce n'est pas après avoir fait 3 mois de métaphysique que vous aurez des intuitions sur les transcendentaux. Ce n'est pas après avoir fait même 1 an ou 2 ans de métaphysique que vous aurez l'intuition des transcendentaux. Mais si vous faites 10 ans ou 20 ans de métaphysique, vous commencerez à avoir l'intuition des transcendentaux. Et si vous l'avez avant, ça prouve que vous êtes précoce. C'est très très bien, pourvu que ça dure. Parce qu'il y a les premières gelées de printemps qui font que les choses trop précoces disparaissent. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop pousser le point de vue précoce. Il faut accepter que c'est lent. Notre intelligence est une intelligence qui se développe par mode abstractif. C'est née du temps. Puis alors après, progressivement. Et si vous êtes très artiste, peintre, musicien, vous avez des intuitions dans ce domaine-là, et des intuitions esthétiques. Si vous êtes très aimant, vous avez des intuitions affectives. Elles ne sont pas toujours vraies. Hein. J'ai l'intuition qu'il est malheureux. Je vais vous lui demander, pas du tout. Ça ne veut rien. Vous avez l'intuition parce que vous avez mis une lumière affective sur la personne que vous aimez. Il a l'air triste ce matin. Il a les yeux abattus. Il n'a pas les yeux lumineux comme de coutume. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tout de suite, le petit brouillard, vous voyez, alors, le petit brouillard que vous projetez, est-ce que vous projetez cela et vous dites qu'il est triste? L'intuition affective de la tristesse. Il y a une intuition affective de la tristesse, comme une intuition affective de la joie, de l'épanouissement. Vous saisissez affectivement. Mais c'est la forme, c'est le rapport. Donc, je n'insiste pas plus là-dessus. Parce que c'est important de bien comprendre la différence entre expérience et intuition, mais on peut le saisir assez vite. Nous avions donc, après, choisi, et je dis bien choisi, délibérément, le point de départ de la philosophie comme étant l'expérience au sens fort, l'expérience impliquant les sens externes. Nous avions compris que cette expérience susciter en nous, quand elle est très forte, une admiration. Et souvent, pour que cette expérience au sens fort, impliquant les sensations externes, pour que cette expérience impliquant les sensations externes puisse susciter affectivement l'admiration, Il faut ordinairement de multiples expériences et que ces expériences soient illuminées de l'intuition. Vous avez expérience, plusieurs expériences. La multiplicité de ces expériences, elles conduisent normalement à une certaine intuition. Je saisis dans cette multiplicité une certaine idée. Le chat existe. Le chat existe. J'existe. La table existe. Comment se fait-il que le chat existe, que la table existe et que j'existe? Qu'est-ce que c'est que cette existence qui passe à travers tout? À travers le chat, l'existence n'est pas épuisée par le chat. L'existence n'est pas épuisée par l'homme. C'est pour ça qu'il y a cette expression si belle d'Aristote, le to anthropo einai, l'être à l'homme, l'être au chat. Aristote ne parle pas du chat, mais ça pourrait. Il parle plutôt de la table, l'être à la table. L'être n'est pas épuisé par le chat, l'être n'est pas épuisé par l'homme, l'être n'est pas épuisé par la table. Il y a donc une certaine unité, une certaine unité. Et je saisis cette unité à travers ces expériences. C'est des gens qui me font toucher quelque chose. Donc, cette unité que je trouve à travers la diversité de ces expériences, parce que c'est divers le chat, c'est divers moi-même du chat. À première vue, je ne vois pas très bien la parenté que j'ai avec le chat. Je n'ai pas de griffes, normalement. N'est-ce pas? Et je ne miaule pas dans le noir. Tandis que le chat miaule dans le noir, il a des griffes. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de parenté, mais il existe. J'existe. Vous voyez, l'œcuménisme fondamental du chat et de moi-même. Je ne sais pas ce que je vais en faire, cet œcuménisme fondamental, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une parenté, quelque chose de commun entre le chat et moi-même, et même la table. C'est curieux, il y a une unité. Alors, si je saisis ça très fortement dans cette diversité, à partir de là, il y a une certaine admiration. C'est étonnant. C'est étonnant que, de fait, le chat n'épuise pas l'exister, que je n'épuise pas l'exister. Et il n'y a rien de commun entre le chat et moi, puisque ce n'est pas moi qui ai fait le chat, la table à la rigueur, hein. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai fait le chat, ce n'est pas moi qui ai fait l'éléphant, si vous aimez mieux l'exister de l'éléphant, c'est plus massif, n'est-ce pas? Alors ça, quelque chose de grand, ou l'exister du Mont Blanc, c'est quelque chose qui pèse. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Comment ça se fait, ça? D'où vient cette unité dans cette diversité? Vous voyez? Alors là, l'étonnement, l'admiration, ou l'étonnement, peu importe, hein, l'étonnement, c'est évident. Et j'avais dit l'opposition, l'angoisse, les deux états affectifs, et deux états affectifs très importants, l'un positif et l'autre négatif. Et je crois qu'on peut dire que l'angoisse naît de l'oubli de l'expérience, tandis qu'au contraire l'étonnement et l'admiration naissent de cette diversité d'expériences dans laquelle j'ai découvert un petit quelque chose d'unité, d'où l'étonnement. Et c'est important de saisir ça, c'est très important de saisir la naissance de l'étonnement. Et je crois qu'à ce moment-là, vous voyez, l'intuition a lieu. Et c'est pour ça que quand Maritain parle de l'intuition de l'être, en réalité ce n'est pas l'intuition de l'être, c'est l'intuition qui naît à partir de la diversité de l'exister dans le chat et dans l'homme. Dans le chat, dans l'éléphant et l'homme. Alors à ce moment-là, c'est vrai, il y a un étonnement. Et cet étonnement s'enracine sur l'intuition. Donc, expérience, multiplicité des expériences, le quelque chose de commun de ces expériences, l'intuition, l'admiration, l'étonnement. À partir de cet étonnement, quand l'intelligence est en... Quand, je veux dire, à partir de cet étonnement,
quand mon état affectif et subjectif est dans cet état d'étonnement, je désire aller plus loin. J'ai la soif d'aller plus loin, j'ai la soif de connaître. Dans l'étonnement, il y a toujours quelque chose qui m'est caché. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Je ne vois pas le pourquoi de l'unité dans cette diversité. Qu'est-ce qui se fait que cette diversité est unifiée par l'existé, par l'essai? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Alors va naître à l'intérieur de cette admiration diverses interrogations. Alors, c'est ça que nous avions vu et que nous allons essayer de comprendre. Diverses interrogations. Première interrogation, ici je prends les interrogations telles qu'Aristote nous les donne. Je suis moyen, je vous dis mes sources, et puis après je vous dirai que je peux quitter ces sources et le dire de moi-même. Du reste, c'est assez facile, hein. Faites vous-même votre petite expérience de vos interrogations. Quand vous écoutez un cours et que vous écoutez le cours en état d'intuition, vous avez, et en état d'admiration, n'est-ce pas? C'est ça qui est le plus difficile, de maintenir cet état d'admiration et de l'alimenter grâce aux intuitions. Le robinet de l'intuition pour l'admiration. Alors à ce moment-là, les interrogations viennent. Alors quelles sont ces interrogations? Je les prends telles qu'Aristote nous les donne, et je montrerai après que ces interrogations telles qu'Aristote nous les donne, Aristote touche quelque chose de fondamental de la structure de l'intelligence humaine. Et la structure de l'intelligence humaine nous est donnée à travers ces opérations. Et ça, c'est très important. Parce que c'est une chose qu'on n'a pas assez vue au plan philosophique. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de voir par rapport à la phénoménologie. Parce que la phénoménologie veut nous donner les structures de l'intelligence. Alors c'est intéressant d'essayer de comprendre les structures tout à fait fondamentales de l'intelligence par le point de vue de l'interrogation. Première interrogation, qu'est-ce? Qu'est-ce? Le ti esti. Vous avez dit, c'est le ti grec. Titi. Hein, c'est ça. C'est qu'est-ce? C'est de savoir qu'est-ce que c'est. Deuxième interrogation, en quoi? Quand on vous a dit c'est un livre, en quoi ce livre? Ou quand on vous dit que c'est un gâteau, alors le en quoi prend encore plus d'importance. Est-ce en chocolat ou en tout simplement autre chose? En quoi? En quoi c'est quand même très important. En quoi? Quand vous lisez des briques, vous pouvez demander en quelle matière? En quelle matière? C'est tout de suite lié à la matière. Matière chocolat, parce que le chocolat c'est une matière, hein. La matière chocolat ou la matière farine, si vous aimez mieux. Alors, troisièmement, d'où cela vient? C'est l'origine. En vue de quoi? En vue de quoi? C'est l'orientation. Et en dernier lieu, c'est de savoir le but, la fin. En vue de quoi faisons-nous de la philosophie? En vue de quoi suivons-nous des cours? Et quand vous êtes fatigué, il faut toujours revenir à l'interrogation en vue de quoi? En vue de quoi ces cours? Et c'est vrai, un cours doit être finalisé, doit être orienté vers quelque chose, la fin. Puis, cinquième interrogation, qu'Aristote ne donne pas beaucoup, mais qui est quand même présente dans Aristote. Sur le modèle de quoi? Sur le modèle de quoi? Ceci, c'est très présent même dans Aristote, à propos de l'activité artistique. Par l'activité artistique, dans le travail, sur le modèle de quoi? Alors, ça, c'est l'exemplaire, l'exemplaire. Le modèle, l'exemplaire. Et puis une sixième interrogation. Alors, très très différente. La sixième interrogation, comment ? Aristote ici, en donnant ça, résume toutes les interrogations du côté spéculatif. La philosophie spéculative. Il reconnaît que la philosophie pratique a encore d'autres interrogations. La question du lieu et du temps. Tu veux faire ceci ? Où est-ce que tu vas le faire ? Tu veux bâtir une maison ? Mais où ? Dans un terrain vague, pas suffisant. Il faut savoir où. À quel moment tu vas le faire ? Tandis que cette interrogation du temps et du lieu, non, au point de vue spéculatif, pas la peine. Ça, c'était Pierre Garin qui a le sens extraordinaire de ça. Quand on construisait le seul choix, je me souviens très bien, on lui avait montré les plans. Il avait regardé ça attentivement. Puis on lui a dit, maintenant c'est construit, si vous voulez venir voir. Il a dit, ah, c'est pas la peine, j'ai vu le plan. Mais connaissance spéculative qui supprime le point de vue pratique. Tandis que le point de vue pratique, c'est quand même, j'ai vu les plans, mais je voudrais voir maintenant comment c'est réalisé. C'est ça qui m'intéresse, voir comment c'est réalisé. Donc la question du temps, la question du lieu, dans quel lieu, à quel moment c'est réalisé, ainsi de suite. C'est très important au point de vue pratique. Et la question de savoir si ça s'est réalisé avec le concours de qui ? Qu'est-ce qui a fait ça ? Qu'est-ce qui a réalisé ça ? Qu'est-ce qui a réalisé la chapelle ? Est-ce que ce sont des spécialistes ou est-ce que ce sont des gâteaux ? Ça, c'est quand même intéressant de savoir ça. Est-ce que si ce sont des spécialistes, ah bon, vous voyez, si au contraire c'est des gens qui sont là uniquement parce qu'ils ont fait ça avec amour, merveilleux, c'est merveilleux. Vous voyez, et ainsi de suite, c'est intéressant comme question. Point de vue spéculatif, pas du tout. Point de vue spéculatif, non. Point de vue spéculatif, on essaie de comprendre, et puis c'est tout. Tandis que là, il y a des quantités de questions pratiques. C'est intéressant, du reste. Peut-être qu'il sait toutes les questions pratiques. Les questions pratiques, ordinairement, on ne le fait pas, mais c'est intéressant. Et les questions pratiques du côté de la Gine, de l'Algérie, et les questions pratiques du côté du Fatcheré. On les verra, du reste. Parce que c'est intéressant de voir ces questions pratiques. Du côté du Fatcheré. Du côté du Fatcheré, vous comprenez que la question des outils est très importante. Qu'est-ce que vous aviez comme outil ? Parce qu'on ne réalise pas la même chose, n'est-ce pas ? Si on a de bons outils ou si on n'a rien du tout. Si vous êtes obligé de uniquement avec vos mains, de façonner l'argile, ou bien au contraire, si vous avez des possibilités beaucoup plus vieilles. La question de l'outil intervient. La question de la cause instrumentale intervient. La question de la méthode intervient. Quelle méthode avez-vous employée ? Et ainsi de suite. Vous voyez, le fatcheré et l'agir, c'est différent. C'est très différent. Alors, c'est intéressant de voir que les questions, les interrogations ne sont pas les mêmes. Donc la structure de l'intelligence spéculative et la structure de l'intelligence pratique, et dans l'intelligence pratique, l'intelligence liée à l'affectivité et l'intelligence liée au fatcheré ne sont pas les mêmes. C'est très curieux, ça. C'est très curieux de voir la diversité de nos interrogations. L'interrogation, vous voyez, c'est l'intelligence en appétit. C'est les appétits naturels de l'intelligence. C'est les appétits naturels de l'intelligence. L'intelligence a des appétits divers. Et l'intelligence s'oriente diversement vers son bien. Alors il y a des appétits naturels, et ça c'est très intéressant de voir que les interrogations vont nous faire comprendre l'appétit naturel de l'intelligence. Je ne peux pas comprendre l'appétit naturel de l'intelligence sans l'interrogation. Et c'est l'interrogation qui va me déceler les appétits naturels. C'est normal, hein, parce que l'appétit naturel, par définition, est en potentialité. Et donc il peut se comprendre que par l'acte. Et le propre de l'interrogation, c'est d'actuer. Mais d'actuer avec l'avance. Toute interrogation est un peu prophétique. Toute interrogation devance ce résultat. C'est pour ça que l'interrogation est analogue à l'hypothèse. Dans une véritable hypothèse, vous savez bien, hein, la qualité d'un savant se dénonce tout de suite par la manière dont il pose une hypothèse. Parce qu'il y a des hypothèses qui n'aboutiront jamais, sont mal posées.
ça cul-de-sac. Ça vous dira.
Tandis qu'il y a des hypothèses, quand elles sont bien posées, la moitié du résultat est déjà donné. Il y a une espèce d'anticipation du résultat dans l'hypothèse. Eh bien, c'est la même chose au point de vue de l'interrogation. L'interrogation, c'est l'hypothèse fondamentale. C'est l'intelligence qui, de fait, veut connaître et qui devance. Elle devance, c'est très curieux. Alors, d'où ça vient, cette espèce d'instinct prophétique de l'intelligence? D'où vient le fait que l'intelligence interroge? D'où vient, mais c'est facile, l'expérience. Avant l'expérience, il y a rien. Il y a la réalité existante. Donc l'interrogation, elle naît à partir de l'étonnement, et l'étonnement naît à partir de l'expérience. Donc il doit y avoir un lien entre l'expérience sensible et l'interrogation. C'est la réalité qui éveille l'intelligence. L'intelligence est éveillée par la réalité, donc l'intelligence est actuée par la réalité. Si mon intelligence, dans l'interrogation, devance les résultats, mon intelligence est poussée par la réalité. C'est la réalité qui pousse mon intelligence à interroger. C'est vraiment la réalité qui est celle qui va déterminer en premier lieu l'intelligence. Alors, dès que je constate ça, je vois qu'il y a un lien qui doit exister entre l'expérience et l'interrogation. Si l'interrogation, c'est mon intelligence qui devance les résultats, elle ne peut devancer les résultats que grâce à l'expérience, que grâce à ce contact qu'elle a avec la réalité. Et la réalité venant actuer mon intelligence va lui permettre de se dresser, si j'ose dire, elle va se dresser pour saisir, pour aller plus loin. Une intelligence qui interroge est une intelligence qui avoue son ignorance. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup d'interroger, surtout au début. Au début, on n'aime pas beaucoup d'interroger parce qu'on dit, je vais dire des grosses bêtises, tout le monde verra mon ignorance. Quand on est déjà un tout petit peu plus calé, on pose des interrogations parce qu'on sait que c'est pas bête. Alors on sait que c'est une interrogation à sa valeur, donc je peux la donner. Tandis qu'au contraire, au début, l'interrogation, je vais dire des grosses bêtises, et non, je ne comprends rien du tout, je n'ai rien compris. Il n'y a même pas l'orientation, le sens, alors qui fait qu'on n'ose pas. On est complètement inhibé. Au début, quand vous suivez un cours sur une matière présupposée connue, mais qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, on n'ose pas interroger. Tandis qu'au bout d'un certain temps, on peut, parce qu'il y a déjà une certaine connaissance. L'interrogation présuppose une connaissance et présuppose une non-connaissance. C'est pour ça que c'est l'appétit de l'intelligence qui cherche. C'est une intelligence qui cherche l'interrogation. C'est une intelligence avide de trouver. C'est celui qui sait et qui veut aller plus loin. Et qui veut aller plus loin, parce qu'il sait qu'il ne connaît pas parfaitement. Alors, posons-nous, regardons ces six interrogations de l'intelligence spéculative, de l'intelligence qui veut connaître et qui veut aller le plus loin possible. Mettons en parallèle ce que dit Aristote, ce que dit Auguste Comte. Il faut intéressant faire dialoguer Auguste Comte face à Aristote. Je ne sais pas si tous les deux sont au ciel et qu'il se retrouve là, mais ça va être intéressant, tu vois. Auguste Comte nous dit, avec beaucoup de naïveté, beaucoup plus qu'Aristote, beaucoup plus naïf qu'Aristote, avec beaucoup de naïveté, il y a deux interrogations. Il y a l'interrogation du pourquoi, et l'interrogation du comment. La nature un peu Aristote. Alors il arrive que le pourquoi implique cinq. Voilà le pourquoi. Le comment, il est unique. Alors Auguste Comte dit, les pourquoi, vous savez bien, c'est les pourquoi des philosophes et des métaphysiciens. Le pourquoi, c'est des hommes naïfs. Ils veulent connaître les causes ultimes. Le pourquoi, c'est de connaître la cause ultime, les causes premières.
Alors les causes premières, on ne peut pas les savoir.
Il n'y a que les enfants qui se posent la question des causes premières. Un esprit positiviste ne se pose plus la question des causes premières, parce qu'il sait qu'elles n'existent pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut jamais les connaître. Alors il ne se pose pas la question des pourquoi. Le pourquoi, c'est la question des théologiens, des métaphysiciens, des philosophes. Le savant de science positive ne se pose que la question du comment. Et c'est intéressant de revoir chez des modernes cette question du pourquoi et du comment. Je vous l'avais dit l'autre jour, Merleau-Ponty dit « l'idéaliste n'interroge plus ». Donc nous retrouvons toujours ce problème de l'interrogation. Ce serait intéressant à faire, au point de vue histoire de la pensée, l'histoire de l'interrogation. C'est-à-dire interroger sur l'interrogation. Essayer de voir à travers les philosophes la place de l'interrogation. Il est sûr que le philosophe de la plus grande interrogation, c'est Socrate. Puisqu'il pousse l'interrogation jusqu'à l'ironie. L'ironie méchante. Rien de tel que de mettre quelqu'un dans une situation difficile que d'ironiser en l'interrogeant. Ben, tu dis ça? Ah, très bien. Alors, voyez. Bien, on va un peu plus loin. Oui, Nicodème en face de Jésus. Il faut naître de nouveau. Ah, quand on est vieux, il faut rentrer dans le ventre maternel. Mais ça, c'est l'ironie. Il ironise, il interroge. Il interroge bien. C'est une interrogation ironique. L'interrogation ironique, c'est toujours une interrogation de quelqu'un qui dit non. C'est le rire de l'intelligence de Sarah. Il dit non, c'est impossible, c'est impossible. Non, je ne crois pas au Père Noël. C'est ça que ça veut dire. Là, ça se dit différemment, mais c'est ça. Je ne crois pas à ce que tu racontes. Continue si tu veux. Mais c'est, non, moi, c'est fini. Je suis un positiviste. La seule chose qui m'intéresse, c'est le comment. C'est le comment, la seule chose qui m'intéresse. Alors, ça, c'est le positiviste qui regarde et qui refuse tous les pourquoi. Alors, c'est intéressant, vous voyez, de voir qu'un seul coup de patte, on va promener toutes les interrogations. Et alors, on met l'intelligence dans un état d'aveuglement. Si l'intelligence ne peut pas interroger, l'intelligence ne peut plus progresser, elle est dans un état de refoulement. Freud a fait les refoulements affectifs. On pourrait pousser un peu plus loin le freudisme en montrant que tout refoulement affectif implique un refoulement intellectuel. Et c'est le refoulement intellectuel qui sont les plus terribles. Quand vous arrêtez le pourquoi de l'enfant et que vous dites non. Et ça, c'est ce qu'on fait constamment. Quand l'enfant est posé pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand le gosse dit qu'est-ce que c'est que ça? La première fois qu'il voit le TGV. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors là, la mère répond TGV. Vous comprenez que ça satisfait l'intelligence. Hein. Et vous répondez par un non, sans donner l'explication, sans regarder la réalité. Et c'est ça qui arrête le développement de l'intelligence. Parce que dès que vous répondez par un non, vous ne satisfaites pas du tout. C'est purement conventionnel, TGV. C'est purement conventionnel. Surtout encore plus quand c'est... C'est des petits raccourcis comme ça, tu vois. Alors, c'est encore plus. C'est encore moins satisfaisant pour l'intelligence. Un terme logique, symbolique. TGV. Alors, à ce moment-là, vous comprenez tout. Et vous ne comprenez rien du tout. Et l'enfant ne comprend rien. Vous arrêtez pourquoi de l'intelligence de l'enfant. Parce que l'enfant poussera qu'est-ce que c'est que TGV. Et alors, à ce moment-là, la mère montrera voilà, c'est ça. Et là, vous avez le cercle. Et alors, ayant le cercle, vous n'avancez plus du tout. Et vous ne pouvez plus maintenir l'éveil de l'intelligence. L'intelligence ne va pas plus loin. Elle s'enferme dans les mots. Et s'enfermant dans les mots, au bout d'un certain temps, elle se fatigue et elle n'interroge plus. C'est pour ça que les psychologues indiquent qu'il y a l'âge de l'arrêt de l'interrogation. Et quand il y a l'arrêt de l'interrogation, c'est le refoulement intellectuel. Et nous sommes tous des refoulés intellectuels. Hein, parce que vous avez tous posé des questions, au bout d'un certain temps, vous avez donné des noms, et puis c'est tout. On ne vous a pas expliqué ce que c'était que la réalité. Alors il y a un refoulement. Et ce refoulement intellectuel, qu'est-ce qu'il aboutit ? À faire que l'imagination passe devant. Alors on a inventé et la créativité. Il faut tout recréer, parce qu'avant moi c'est des imbéciles, c'est des mots. Alors on va tout recréer.